Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Ces jours-ci, à Montpellier, on parle beaucoup de transport en commun, de mobilité, comme on dit officiellement, pour parler des déplacements. L'événement, c'est le début de la gratuité totale des trams et des bus, tous les jours, pour tous les habitants de la métropole, à partir du 21 décembre. Michael Delafosse, le maire de Montpellier, président de la métropole, est venu nous en parler à ce micro en septembre dernier. Il a développé l'idée qu'en utilisant davantage les transports en commun et le vélo, les métropolitains contribueront à améliorer la qualité de l'air avec des effets bénéfiques pour la santé. Nous allons en parler. Pour porter un autre regard sur ce phénomène et sur d'autres, j'ai invité un expert, Grégoire Mercier. Merci à vous. Vous êtes médecin de santé publique et chercheur. Vous avez deux activités en parallèle. Vous êtes responsable de l'équipe science au pluriel des données au CHU de Montpellier. Parallèlement, vous êtes le cofondateur avec Ulysse Rhodes et le dirigeant donc d'une jeune entreprise innovante, une start-up comme on dit, dénommée CanopyMed. Nous allons voir de quoi il s'agit, mais d'abord, racontez-nous votre Montpellier. Grégoire Mercier, quels sont les lieux à Montpellier qui figurent pas sur les cartes postales que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché? Vos lieux favoris, y compris ceux un peu plus secrets ou en tout cas qui sont moins banals.
Bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité. Alors Montpellier, c'est une ville que je parcours à pied la plupart du temps ou à vélo.
Donc vous êtes un promeneur montpelliérain.
Exactement.
Donc un déambulateur pour Montpellier.
Je n'habite pas dans Montpellier même, j'habite dans la métropole, mais je viens très souvent dans la ville de Montpellier. Et je dirais quasi toujours à vélo ou à pied. Et il y a un lieu que j'aime particulièrement qui est le Jardin des Plantes. Alors vous allez me dire, ça fait partie de la carte postale de Montpellier.
Sûr. Mais pas si connu qu'on le croit.
C'est un lieu qui est extrêmement agréable parce qu'un lieu de verdure, un lieu de fraîcheur aussi l'été, et un lieu qu'on peut parcourir à pied, par définition. Donc je dirais que c'est
Et un lieu, je dirais, de pause en plein centre-ville.
Exactement, qui permet de s'extraire un petit peu de la minéralité de l'Écusson. Et puis, j'aime bien aussi, très classique, la place de la Canourgue, qui pour moi est une place très agréable et vraiment...
C'est café...
Qui mérite le détour, le voyage.
Très bien. Alors, quand vous recevez des amis ou des parents de passage, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur dites de Montpellier? Ils ne connaissent peu Montpellier. Est-ce que vous leur conseillez, une telle visite, un restaurant ou je ne sais quoi?
Alors, quand on visite en famille, notamment Montpellier, on visite déjà toujours à pied, encore une fois. J'ai toujours cet amour pour la marche à pied. Et on fait un circuit qui est assez classique. On part des Arceaux et on traverse le Pérou. Et puis, on traverse l'Écusson. Et j'ai découvert, il y a à peu près un an, qu'il y a ce street artiste qui s'appelle Alban, et qui a mis des mosaïques. Et en fait, on peut suivre, en cherchant des Space Invaders, on peut suivre un parcours à travers l'Écusson, d'ailleurs.
Donc,
un peu plus
sur les murs, à l'angle de rue, j'ai souvent...
On repère des petites mosaïques qui sont répertoriées dans une application, en plus. Et je trouve que c'est une très belle façon de découvrir la ville, puisqu'on peut, en une heure et demie, deux heures, parcourir les principales rues et les principaux axes de la ville. Et encore une fois, c'est une belle façon d'allier street art, culture et puis découverte architecturale. Et pour des gens qui ne connaissent pas du tout Montpellier, la plupart sont surpris de voir qu'il y a ce parcours et cette richesse, je dirais, culturelle.
Très bien. Voilà qui donne des idées aux auditeurs qui ne connaîtraient pas ces petits signes urbains là, dans les rues de Montpellier. Sinon, il y a des choses que vous aimez moins à Montpellier ou qui vous déplaisent, notamment... comme vous le savez, vous êtes là depuis une vingtaine d'années, natif de Lyon, donc vous avez vu la ville grandir, se développer, croître en population, croître sur le plan urbanistique. Quel jugement vous portez sur la trajectoire de Montpellier des deux dernières décennies?
Alors effectivement, je suis arrivé il y a 20 ans, quasiment jour pour jour aujourd'hui, de Lyon, donc métropole beaucoup plus grande en taille. Ce que j'ai constaté pendant ces 20 dernières années, c'est la croissance de la ville. Alors, évidemment, j'ai un regard un peu ambigu parce que je contribue à cette croissance, parce que je fais partie de ces arrivants. Je suis heureux que Montpellier accueille d'ailleurs les arrivants dont j'ai fait partie. Et c'est vrai que certains quartiers, je trouve, ont une croissance un petit peu rapide. Mais je voyage pas mal pour mon travail et je m'aperçois que finalement, toutes les métropoles en France, mais aussi en Europe, suivent le même modèle, c'est-à-dire de densification et aussi de croissance démographique. Donc évidemment qu'on idéalise toujours un petit peu le passé, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre chemin aujourd'hui pour les métropoles que la croissance
Alors, vous avez devancé une question que j'avais en tête. Par rapport à d'autres métropoles comparables, qu'est-ce qui, à vos yeux, singularise ou caractérise Montpellier? En quoi, même s'il y a des trajectoires donc, urbanistiques, démographiques, économiques assez voisines, il y a quelque chose de particulier à Montpellier? Et si oui, qu'est-ce?
Alors, ce qui me plaît à Montpellier, je ne suis pas certain que ce soit propre à cette ville, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une ville qui est ancrée dans son histoire, et même ancrée dans l'histoire. Si je reprends ma visite de l'Écusson à travers les mosaïques et le street art, on croise Rabelais, on croise Jean Moulin, donc on croise très facilement, sur des petites distances, toute l'histoire de Montpellier. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans cette ville, c'est sa capacité à aussi partir de son histoire pour se projeter vers l'avenir, comme on dit, vers le futur. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, en particulier dans le monde de la santé, où il y a quand même une histoire scientifique, médicale.
Une histoire mémorable.
Mémorable, et mise en avant à raison, c'est-à-dire que si on se recentre un peu sur le secteur de la santé, on a à Montpellier une capacité à faire, je dirais, de l'histoire une force pour l'avenir et pour se projeter dans le futur. Donc, c'est ce qui me plaît à Montpellier. C'est aussi le pari de beaucoup de métropoles aujourd'hui. Ouais. Donc, je ne vais pas dire que c'est ça qui l'a caractérisé.
Oui, bien sûr. Ceci dit, vous pourrez candidater pour être guide à l'Office de tourisme parce que vous en parlez bien et avec précision et avec, me semble-t-il, du cœur. Alors, on va venir maintenant à vos activités. Première question toute simple, qu'est-ce qui vous a conduit, quand vous étiez au lycée, à vous orienter vers des études de médecine? Qu'est-ce qui vous a poussé? Un environnement familial, une appétence particulière?
Alors, pas d'environnement familial, pas directement. Encore que mes parents et ma famille élargie sont pour la plupart enseignants, donc on va dire dans des métiers tournés vers les autres. Et probablement que ça a joué à un certain moment. Quand j'étais lycéen, j'avais une appétence pour les sciences, pour la biologie, et j'étais attiré, je dirais, généralement par ce monde de la santé que je ne connaissais absolument pas.
Mais il y avait quand même cet intérêt, là, cette curiosité particulière qui a trouvé ses effets en choisissant médecine.
Tout à fait, tout à fait. Et le jour où, à l'époque, en terminale, donc on devait choisir une orientation, j'ai très rapidement choisi de faire médecine. J'étais un bon élève au lycée et tout le monde m'a encouragé à faire ce genre de choix, donc j'y suis allé.
Oui, parce qu'on connaît le caractère sélectif des études de médecine, notamment les premières années.
C'est ça.
Alors, autre caractéristique de votre parcours, c'est le choix de la santé publique, avec votre double formation, donc, en économie de la santé, la London Economic School, et ensuite une thèse ici, sur un sujet voisin à l'université, en économie et gestion. Là aussi, cette inflexion, à quoi tient-elle?
Tout à fait. Alors là, il y a peut-être une trace familiale, puisque mon père est économiste. Il est à la retraite, mais il est économiste, pas du tout de la santé. Mais donc, j'avais cet intérêt pour les questions de société. Parce que la santé publique, c'est une branche de la médecine, c'est une spécialité. Ce qui la caractérise, c'est qu'en santé publique, on s'intéresse aux déterminants de la santé. Et donc, on prend un positionnement qui fait appel aux sciences sociales, beaucoup, l'économie, la sociologie, l'anthropologie. Et on est aussi intéressé par les déterminants, notamment environnementaux. L'idée, c'est de sortir de la relation individuelle de soins pour s'intéresser aux déterminants beaucoup plus larges, sociétaux, environnementaux de la santé. Donc je dirais que c'est un pas de côté quand on est engagé dans la voie médicale, mais ça reste une façon de contribuer à l'amélioration de la santé des gens. Donc il y a quand même un continuum.
On va en parler. Mais vous parlez de santé publique de précision. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce choix, je le dis de manière un peu caricaturale, une distinction ou dans un domaine où les chiffres, la rationalité ont peut-être plus de place que dans une activité médicale classique où la psychologie, la relation au patient, avec ce qu'elle comprend, je dirais, d'un peu incertain, impalpable, ou en tout cas, elle peut échapper à une pure analyse, à une pure rationalité. Est-ce qu'il y a ça aussi, là, cette recherche des données, de la précision, des faits hein.
Absolument. Alors, ce qui est vrai, c'est que la santé publique aujourd'hui repose en grande partie sur de la donnée, hein, ce qu'on appelle de la donnée, donc des outils numériques.
Oui, on dit data, là, pour
voilà,
faire chic,
de la data,
données, oui.
Du big data même. Voilà. Mais c'est simplement de la donnée, parce que les données sont de plus en plus abondantes dans tous les secteurs de la société, et parce que la santé publique, puisqu'elle a une approche qui est très large et surtout très diverse en termes de déterminants, est alimentée de plus en plus par des données, par des outils informatiques et par des analyses de données. Donc c'est pour ça qu'on parle maintenant de santé publique de précision. C'est cette référence finalement à la donnée qui peut guider l'action en santé publique.
Alors, je l'ai dit en vous présentant, on y revient. Vous êtes responsable d'une équipe science au pluriel des données au CHU de Montpellier. Alors, sur quoi portent vos activités? Quelles sont les missions là, qui vous sont confiées avec votre équipe, que vous pouvez décrire au passage?
Tout à fait. Donc, l'équipe dont je m'occupe est constituée d'à peu près 15 personnes et fait partie d'un département qui est le département de santé publique.
Ah d'accord, c'est une branche du département de santé publique.
Tout à fait.
Avec d'autres activités à côté des vôtres.
Tout à fait, exactement. Et donc, comme son nom l'indique, mais je conçois que ce n'est pas forcément facile à comprendre pour l'auditeur, mais pour schématiser, notre mission principale, c'est de prendre soin des données médicales du CHU. Il faut imaginer que chaque fois qu'un patient vient en consultation ou est hospitalisé au CHU, ce contact avec le système de santé va générer des données, des informations médicales, des informations démographiques sur l'état de santé. Et que ces données, si on en prend soin, c'est-à-dire si on les stocke et on les entretient...
Vous les recueillez dans de bonnes conditions déjà, j'imagine.
Exactement.
Pour assurer leur fiabilité.
Il faut les recueillir, il faut les fiabiliser, il faut aussi les rendre facilement réutilisables, disponibles. Donc ces données vont servir à la fois, si le patient revient en consultation plus tard, on va avoir accès à son historique, mais elles vont aussi de plus en plus servir pour faire de la recherche, par exemple, et notamment de la recherche en santé publique.
Il y a un lien avec les dossiers patients, notamment les dossiers numériques qui se mettent en place peu à peu?
Oui, exactement. C'est-à-dire que le dossier patient, c'est un des moyens parmi d'autres de recueillir ces données médicales à l'hôpital. Il y en a d'autres, mais c'est, je dirais, le principal et le plus évident.
Alors, quels sont les principaux de recherche, d'études qui s'appuient, qui exploitent ces données?
Alors, on peut travailler en termes de recherche dans différents axes. Le premier, c'est comprendre quels sont les parcours de soins, c'est-à-dire comprendre, par exemple, d'où viennent géographiquement les patients qui sont hospitalisés au CHU de Montpellier. Et puis, autre exemple, essayer de comprendre pourquoi certains patients, notamment ceux qui ont des maladies chroniques, vont venir de manière répétée à l'hôpital parce que périodiquement, leur maladie va s'aggraver. Donc, essayer de comprendre un petit peu les déterminants de tout ça. Et encore une fois, principe de la recherche, si on arrive à comprendre ça, on peut peut-être ensuite en déduire des manières d'agir et peut-être même de prévenir ce genre de complications et d'hospitalisation.
Alors, un mot, parce que bon, l'idée me vient en tête, et je pense que beaucoup d'auditeurs sont sensibles. La protection des données, c'est un vrai sujet dans une société qui s'est numérisée, où les différentes formes de captation des données personnelles posent un problème éthique et sociétal, me semble-t-il. Quelle est votre manière d'aborder cette question pour rassurer, je l'espère, nos auditeurs sur ce point?
Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un cadre, je dirais, réglementaire, légal, qui est particulièrement riche. Puisqu'on parle souvent du cadre européen qui est le RGPD, ouais. Le Règlement Général sur la Protection des Données. Il faut savoir qu'il a été inspiré par la loi française Informatique et Liberté. Et il y a donc des grands principes qui sont intangibles et qui sont respectés évidemment dans le secteur de la santé, en particulier à l'hôpital, de protection de la vie privée, mais aussi d'information et je dirais de droit pour le patient.
Oui, d'accès aux informations qui me concernent.
À accéder à ses propres informations, mais aussi à refuser, le cas échéant, qu'on réutilise ces informations. Pour être simplement concret, si vous êtes hospitalisé au CHU de Montpellier, il est possible que vos données soient réutilisées dans le cadre d'un projet de recherche, mais on va toujours vous en informer d'une part, individuellement, et on va vous laisser la possibilité simplement de refuser, c'est-à-dire de dire non, je n'ai pas envie que mes données servent à faire de la recherche.
Mais est-ce qu'il y a une autre hypothèse selon laquelle ces données seraient anonymisées, c'est-à-dire où il ne serait pas possible, en utilisant ces données, d'accéder à la personne, au patient concerné ?
Alors, anonymiser complètement et de manière irréversible des données en santé, c'est très compliqué. Parce qu'évidemment, dès qu'on peut, on va supprimer le nom, le prénom, les informations directement identifiantes. Mais vous allez avoir ensuite des informations tellement précises, avec des dates, des traitements, des diagnostics,
oui, bien sûr,
que indirectement, vous allez
pouvoir... On peut identifier
pouvoir...
la personne.
Voilà. Donc on considère, nous au CHU, que des données qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon indirectement réidentifiantes, ont besoin du même niveau de protection que des données nominatives.
Bien sûr.
Il y a très peu de données qu'on peut considérer comme étant anonymes, et c'est plutôt des données qui sont de l'ordre de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui consistent à générer des données synthétiques qui ne correspondent à aucun patient réel. Mais encore une fois, le principe, c'est que toutes les données sont à protéger.
D'accord. Alors, vous vous intéressez notamment à l'impact de l'environnement sur la santé, d'une manière, on va parler qualité de l'air qui est un des volets, mais il y a d'autres aspects de cet impact de l'environnement sur notre santé sur lesquels vous vous penchez.
Oui, c'est un vaste sujet. J'évoquais les déterminants de la santé, notamment les déterminants environnementaux. On peut citer la pollution atmosphérique, l'air extérieur en particulier. On peut citer aussi l'impact du réchauffement climatique. Et par exemple, l'impact direct qu'une vague de chaleur ou qu'une température extrême va avoir et a déjà sur la santé des habitants de la population. Donc aujourd'hui, ce sont les deux thématiques sur lesquelles on travaille le plus. Il y en a d'autres, évidemment. Mais...
Donc deux sujets très, très aigus, dont chacun peut percevoir, même s'il n'est pas directement atteint. Alors, je l'ai évoqué en introduction, la question de la pollution de l'air et de la qualité de l'air. Où en est-on aujourd'hui? Quelle est la situation à Montpellier? Et surtout, comment a-t-elle évolué? Évolue-t-elle? Qu'on ait une idée, je dirais, de la tendance en la matière pour être bien au fait d'un sujet qui concerne chacun et notamment les personnes les plus fragiles.
Tout à fait. Alors, il y a, je dirais, un côté positif, un côté un peu plus négatif, comme toujours, c'est nuancé. Le côté positif, c'est qu'il y a une tendance, et ce n'est pas propre à la ville de Montpellier, c'est propre à l'Europe continentale, il y a une tendance depuis le début des années 2000 à la diminution de la concentration de la plupart des polluants atmosphériques.
Ozone,
particules fines, dioxyde d'azote, si on prend les trois principaux. Tendance qu'on peut qualifier d'historique, vu le recul qu'on a, qui est lié notamment à des régulations et à des lois européennes, notamment sur les émissions des véhicules et de l'industrie, principalement.
Donc, qui sont les deux principales sources de pollution de l'air, l'industrie et le
travail. Alors, il y en a d'autres.
Circulation automobile, mais il y en a d'autres qu'il faut avoir en tête.
Voilà, il y a grosso modo l'industrie, les transports, l'agriculture, qui est une source aussi significative, et puis le chauffage, notamment chauffage urbain, en fonction du mode de chauffage, peut générer des émissions significatives. Donc je disais, il y a cette tendance sur le long terme à la diminution. Si on regarde aujourd'hui, malgré cette tendance, on a quand même, y compris à Montpellier, des dépassements de seuils recommandés. Hein, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé et en France, Santé publique France, font des recommandations sur des seuils qui ne devraient pas être dépassés dans un monde idéal.
Donc du coup, ça produit une espèce d'alerte quand ces seuils sont atteints?
Alors, il n'y a pas d'alerte au sens où, les citoyens ne sont pas alertés, mais il y a un système de surveillance en continu de la pollution atmosphérique. Donc, on peut savoir au jour le jour si on dépasse les seuils. Et à Montpellier, encore une fois, comme dans toutes les métropoles aujourd'hui françaises, il y a encore des dépassements de seuils. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Donc, on peut dire qu'on a fait une partie du chemin, mais qu'on n'a pas terminé.
Alors, avant de revenir sur les voies pour améliorer la situation, notamment qualité de l'air, je crois qu'il faut dire un mot quand même sur les effets sur la santé d'une mauvaise qualité de l'air. Et ces effets sont nombreux et forts et brutaux.
Tout à fait. Et les connaissances scientifiques, je dirais, ont progressé rapidement ces dernières années. On peut distinguer des conséquences de court terme et des conséquences de long terme. Les conséquences de court terme, c'est un pic de pollution qui va entraîner des effets, en général, chez des personnes qui ont des maladies chroniques. Typiquement, une personne asthmatique, ou insuffisante respiratoire chronique.
Bon, les maladies respiratoires notamment, voilà. Mais si on le comprend.
Mais pas uniquement. Il y a aussi le cas des accidents vasculaires cérébraux. Disons que le pic de pollution, parmi d'autres facteurs, peut contribuer au déclenchement d'une crise d'asthme ou d'un accident vasculaire cérébral. Donc ça, c'est sur l'effet de court terme. Mais il y a aussi des effets de long terme, c'est-à-dire que l'exposition chronique à des dépassements des seuils recommandés va aussi avoir des conséquences sur la santé. Et ce qui est, je dirais, scientifiquement intéressant, mais aussi un petit peu inquiétant, c'est qu'on a des effets sur tout un panel de maladies qui va bien au-delà des maladies respiratoires. Quasiment toutes les maladies cardiovasculaires, certains cancers, mais aussi des maladies métaboliques, des maladies auto-immunes et même des problématiques liées aux femmes enceintes qui peuvent avoir des effets pour elles-mêmes et pour leur enfant à naître en cas d'exposition chronique. Donc on a aujourd'hui une meilleure compréhension. Et ce qu'on peut dire, c'est que la pollution atmosphérique, aujourd'hui, peut avoir un effet sur quasiment tout un chacun.
Alors, comme vous le savez, j'ai fait allusion au début de cette rencontre. Il y a un discours public là, qui est énoncé, voire martelé, qui tend à démontrer que le recul de l'usage de la voiture et, à contrario, le développement des transports en commun, du vélo et, pour reprendre votre propos, de la marche à pied, constituent des réponses, pas des réponses uniques, mais des réponses, je dirais, efficaces pour aller collectivement et individuellement vers l'amélioration de la qualité de l'air.
Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si on fait le point aujourd'hui sur la métropole de Montpellier et sur les sources d'émissions, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique qu'on a encore des dépassements de seuil, parmi les principales sources d'émissions, on va trouver la circulation automobile. Circulation automobile, je dirais locale, évidemment, c'est-à-dire tous les trajets, notamment pendulaires, entre Montpellier et puis les
domicile-travail, quoi. Hein.
Domicile-travail, pour simplifier. Les déplacements, on va dire, d'ordre plutôt professionnel, transport routier. Et on a aussi les déplacements liés à la présence de l'autoroute. Donc, en tout cas, la circulation automobile. Donc, c'est vrai que si on arrive à réduire le nombre de kilomètres parcourus en voiture thermique en tout cas, on va avoir un effet positif sur la concentration et donc un effet à terme positif sur la santé.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres leviers ou d'autres solutions pour contribuer à cette amélioration de la qualité de l'air ? Vous avez évoqué l'industrie. Bon, c'est un sujet aussi qui est sur la table, à la fois la table du débat public, la table sur un certain nombre de décisions. Vous confirmez que c'est aussi, là aussi, une des grandes priorités pour...
Alors, l'industrie, en général, oui. À Montpellier, alors je dirais heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de très grosse activité industrielle.
Ouais, donc, ou en tout cas, d'une activité polluante. Quoi,
voilà. Hein, voilà. Donc, clairement, ce n'est pas le sujet principal. Il y a un sujet qui est très lié à celui de la mobilité des transports. C'est le sujet de l'urbanisme. C'est-à-dire que la façon dont on va organiser la ville, et notamment la façon dont on va répartir dans l'espace les lieux d'habitation et les lieux de travail, va avoir un impact extrêmement important.
Notamment si les lieux d'habitation et de travail sont éloignés, ils le sont pour une bonne part maintenant. Et donc, vous n'êtes pas urbaniste, mais l'idée de quartier où serait en proximité, on trouverait à la fois du logement et des activités, au moins une partie des activités, vous paraîtrait une des solutions intelligentes à cette problématique.
Tout à fait. Et encore une fois, c'est la direction que prend Montpellier et d'autres métropoles françaises, c'est-à-dire essayer d'anticiper l'effet de l'urbanisme sur les mobilités. On peut aussi citer le sujet qui peut paraître anecdotique et technique, mais du chauffage urbain. On sait que le chauffage en hiver va être une source importante, notamment de particules fines. Et donc, chaque fois qu'on va installer un système plus moderne de chauffage ou qu'on va optimiser, je dirais, le fonctionnement, on va avoir un impact positif aussi sur les émissions.
Alors, il nous reste que quelques minutes, on va parler de CanopyMed. Comme d'autres chercheurs, d'autres médecins, vous avez pris le parti de prendre pied dans le monde de l'entreprise. Quel a été le facteur déclenchant là ?
Alors, c'est un cheminement qui est assez classique, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'au CHU, je fais de la recherche, hein, je fais toujours de la recherche. Et finalement, quand on fait de la recherche, on produit de la connaissance, on produit de la science. Et il y a forcément un moment où on se dit à quoi va servir cette connaissance, à quoi va servir cette science. Et donc, en soi, faire progresser la science et les connaissances, c'est intéressant. Mais si on veut avoir un effet un peu plus concret, une des options, c'est pas la seule, mais une des options, c'est de se dire qu'on va, à partir des résultats d'un projet de recherche, imaginer un service ou un produit Et donc, une fois qu'on a ce raisonnement, on est dans la démarche de créer une entreprise innovante. Et donc, alors, c'est ce qui a été fait il y a quelques années.
Donc, vous avez démarré Canopy il y a quelques années, là, de 3 ans, c'est ça, de
tout
mémoire.
Tout à fait, 2019, exactement.
2019. Alors, vous avez parlé des produits, dans la production de cette entreprise. Quelle est-elle et à qui s'adresse-t-elle? Bon, une idée de vos clients, je dirais. Bon,
oui. Alors, ce sont des produits numériques, logiquement, des logiciels, tout simplement, dans deux domaines, et deux domaines qu'on a abordés aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la santé environnementale. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle AirMap et qui sert aux métropoles et aux départements à comprendre l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé.
Donc c'est un outil proposé aux collectivités locales, donc.
C'est ça, utilisé par les collectivités locales pour modéliser l'effet sur la santé.
Et le deuxième volet, là, donc, de vos activités.
Et le deuxième, c'est la déclinaison de l'analyse des données, mais cette fois-ci à l'échelle du patient, à l'échelle individuelle. Donc on est dans la médecine personnalisée, la médecine prédictive. L'idée, c'est d'aller regarder dans les données médicales, donc dans le dossier médical du patient, et essayer de quantifier un risque d'événement, comme une réhospitalisation, et ensuite d'utiliser cette information pour améliorer la prise en charge du patient.
Alors ça fait partie, je crois que vous avez prononcé le mot, de ce qu'on appelle la médecine prédictive, hein, qui est aussi, me semble-t-il, un développement relatif récent de la manière de soigner.
Tout à fait. C'est l'idée de pouvoir comprendre et anticiper ce qui va se passer pour le patient pour adapter aujourd'hui sa prise en charge et son traitement. Et c'est quelque chose qui a été vraiment, je dirais, consubstantiel à l'abondance des données médicales, puisque pour ces approches prédictives, schématiquement, il faut avoir des données à disposition.
Donc il y a un matériau abondant qu'il faut exploiter, utiliser à bon escient.
Tout à fait. D'accord.
Et dans ce secteur-là, vous avez des concurrents, en tout cas, qu'est-ce qui singularise votre entreprise par rapport à d'autres qui se sont installés, grosso modo, dans la même offre?
Alors, sur la médecine prédictive, on a des concurrents, mais c'est plutôt une bonne chose. Mais ce qui nous singularise, c'est que nous, on fait le pari de travailler sur des données qui sont déjà existantes, déjà disponibles dans le dossier médical du patient. On n'a pas fait le pari de développer une application mobile et de demander aux patients de renseigner des questionnaires, par exemple, ce qui est l'autre approche.
Vous appuyez sur le recueil des données, bon, notamment à l'hôpital.
C'est ça.
Ou chez les médecins.
À l'hôpital, pour l'instant.
Les médecins de ville également, pas pour l'instant.
Non, oui.
D'accord. Bon, c'est envisageable, j'imagine, ça, sous condition.
Ce sont des perspectives. Il y a des questions qui sont surtout des questions techniques, c'est-à-dire que les médecins, notamment généralistes, évidemment, recueillent des données, ont des dossiers patients informatisés, mais l'accès à ces données, hein, dans le cadre juridique et éthique qu'on a évoqué, aujourd'hui est très complexe.
Ouais. Alors, j'imagine, on ne l'a pas évoqué, mais que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, aurait à regarder ça si ce type de dispositif se préparait ou, a fortiori, se mettait en place. Donc,
tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que développer ce type d'outil, ça suppose d'être conforme à la réglementation nationale européenne et aussi à des principes éthiques, hein, qui ne sont pas dans la loi, mais des principes, évidemment, d'information du patient. Et concernant la médecine prédictive, c'est intéressant, puisque quand on dit médecine prédictive, on commence à parler souvent d'intelligence artificielle, puisqu'on va utiliser des algorithmes pour travailler sur les données. Et donc, il y a aussi des principes, notamment de transparence et d'explicabilité, c'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur comprenne ce qui se passe dans la machine.
Très bien. Alors, dernière petite question, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez donner à nos auditrices et auditeurs un petit conseil de vie quotidienne, peut-être une chose qui n'est pas toujours dite ou peu dite, hein, pour que chacun prenne sa part, notamment pour améliorer la qualité de l'air et en tout cas pour diminuer l'impact de l'environnement sur notre santé? Docteur Mercier.
Alors, mon conseil n'est pas très original, mais il est extrêmement efficace. Et vous l'avez compris en introduction, j'adore marcher. Et je pense que se poser la question systématiquement à l'occasion d'un déplacement, est-ce que je peux le faire à pied? C'est bon pour votre santé et c'est bon pour celle des autres.
Très bien. Marchez, marchons. Merci, docteur Mercier. Auditeurs, auditrices, à un prochain rendez-vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.